Bonsoir à toutes et à tous, c'est vendredi, c'est le club des idées du grain. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Ils seront 9 candidats à la primaire de la gauche en janvier prochain. Les prétendants avaient jusqu'à hier soir 18h pour déposer les parrainages nécessaires pour participer à cette compétition. Reste encore un obstacle, la validation de leur candidature par la haute autorité des primaires, ce qui devrait être fait dans les prochaines heures. 9 candidats, c'est beaucoup pour une famille politique aussi mal en point, même si ceci explique sans doute cela. Et pourtant, le compte n'y est pas. Les appels du patron du PS n'ont pas suffi. Ni Jean-Luc Mélenchon, ni Emmanuel Macron n'ont accepté de jouer le jeu de ce scrutin intermédiaire. Macron n'en a visiblement pas besoin. Son entrée en campagne tonitruante le week-end dernier a marqué les esprits. Paris, pour l'instant, réussit pour celui qui se veut le candidat hors système. Il n'est pas le seul d'ailleurs à revendiquer ce créneau. Être en dehors du système, de l'élite, des partis traditionnels est devenu un mode de positionnement très couru aujourd'hui. Alors on peut y voir une forme de défaite de la politique, ou au contraire une façon de régénérer celle-ci en ouvrant le champ des possibles. La France, le pays aux 65 millions de présidents, eh bien c'est une des questions que nous allons aborder ce soir avec trois des membres de notre club. Brice Couturier, bonsoir. Journaliste, le tour du monde des idées du lundi au jeudi à 11h50 sur France Culture, du lundi au jeudi, du lundi au vendredi même, devrais-je
vendredi,
dire.
Vendredi.
Je
confirme.
Je voulais vous sucrer une journée. Philippe Manière, bonsoir.
Bonsoir.
Consultant, vous dirigez le cabinet de conseil en stratégie Footprint Consultant. Et Sylvain Bourmeau, bonsoir.
Bonsoir.
Producteur de la suite dans les idées sur France Culture, chaque samedi à 13h30.
Je suis venu vous dire solennellement, pour le cas d'un qui ne saurait pas, que je suis officiellement candidat à la présidence de la République.
Je crois qu'aujourd'hui, le pouvoir politique, d'une manière générale, a arrêté de faire de la politique. Ils ont abandonné le pouvoir à la technocratie. Cette technocratie, elle est aujourd'hui prédominante dans les cabinets ministériels qui sont totalement dépolitisés.
Vous savez, j'ai eu l'occasion de dire, après les élections de 2002, jusqu'à Jacques Chirac, nous avons eu des candidats qui étaient patinés par l'histoire. Après, nous avons eu les enfants de la télé.
Je dément catégoriquement les allégations contenues sur le site Mediapart. Je n'ai pas, monsieur le député, je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, ni maintenant, ni avant.
Désabusé pour l'élection présidentielle de l'année prochaine, Edouard sait qu'il va s'abstenir.
C'est la première fois en 40 ans. Si, ils font des beaux discours, ils vont à la télé, ouais, on va faire ci, on va faire ça. On sait très bien que c'est faux.
Alors, petit coup d'œil sonore sur notre sujet du soir, signé comme chaque semaine par Jean-Christophe Francis. Jean-Christophe Francis qui a été inspiré, je dois le dire, avant tout par la proposition qui a été la vôtre, Sylvain Bourmeau, de nous guider dans la conversation d'aujourd'hui, qui, je le rappelle, s'inscrit dans une journée plus large sur France Culture, inventaire avant élection. On a tenté tout au long de cette journée, et ça va continuer d'ailleurs après le grain, de faire le portrait de cette France quelques mois avant l'élection présidentielle. Et lorsqu'on vous a sollicité les uns et les autres pour savoir de quoi vous aimeriez peut-être parler plus spécifiquement ce soir, vous Sylvain Bourmeau, vous nous avez dit bah, je pense que ce serait pas mal de faire peut-être une forme de portrait amoché de la politique, enfin non pas que vous vouliez l'amocher cette politique, mais c'est plutôt de l'ordre du constat chez vous, si j'ai bien compris.
Oui, bien au contraire, loin de moi l'idée d'en rajouter. On vit une crise politique depuis de longues années. Alors d'abord, elle prend différentes formes. Il y a une crise de la représentation politique, une crise de la participation politique qui n'est pas propre à la France, qu'on retrouve dans toutes les démocraties occidentales, qui se traduit par une baisse régulière de la participation aux élections. Ça fait 40 ans que ça dure et ça ne cesse de baisser. Donc ça, c'est le contexte général. Mais dans ce contexte général, on a une situation française qui me semble à bien des égards assez exceptionnelle et encore plus inquiétante, qui tient aux formes spécifiques qu'a pu prendre un phénomène là encore plus large, qui est celui de la professionnalisation politique. On est un pays dans lequel les carrières politiques sont interminables, ce qui n'est pas le cas ailleurs, où on survit après des échecs électoraux, ce qui n'est pas le cas ailleurs. On a un vrai problème de renouvellement régulier de ceux qui composent cette classe politique. Alors, je ne veux pas faire un tableau complètement noir, il y a aussi quelques bonnes nouvelles, et on en a déjà parlé dans cette émission. Les bonnes nouvelles sont par exemple, de mon point de vue, à chercher du côté du succès de ces primaires qui ont été organisées en 2011, puis à nouveau il y a quelques semaines, par la droite. Parce qu'on voit que ceux des citoyens qui s'intéressent le plus à la politique, c'est-à-dire 3-4 millions de personnes à gauche, 3-4 millions de personnes à droite, sont aussi intéressés, voire peut-être plus encore intéressés par la politique qu'auparavant. Donc il y a, de ce point de vue, des inégalités grandes. On a une partie de la population française qui s'intéresse toujours autant, au moins, à la politique. Alors, ce sur quoi je voudrais qu'on s'arrête, moi, ce soir, c'est ça que je proposais, c'était pas tellement les citoyens, mais plutôt les responsables politiques, c'est-à-dire ceux qui constituent l'offre politique. Et il me semble que la crise que nous traversons en ce moment, qui est assez aiguë, c'est celle de l'offre politique. C'est-à-dire, ça renvoie à ce problème d'absence de renouvellement du personnel politique. Et c'est comme ça qu'on peut expliquer aussi bien des phénomènes comme les 9 candidatures à la primaire de gauche, que cette impression dans laquelle aujourd'hui, finalement, tout le monde voudrait ou pourrait être président de la même façon que tout le monde se pense entraîneur de l'équipe de France de football. Je trouve symptomatique que deux chaînes du groupe Radio France, que ce soit Inter ou Info, aient cette rubrique en vue de l'élection présidentielle « Moi, président ». Et ils donnent la parole à des quidam pour nous expliquer ce qu'ils feraient s'ils étaient président. Je trouve ça très symptomatique de la situation dans laquelle on est.
Enfin, s'agissant de France Info, je crois que « Moi, président », c'est plutôt pour des auteurs d'essais. Hein,
pour France Info. Et sur Inter, c'est le matin, au contraire, du radio-trottoir, comme on dit dans le journalisme, c'est-à-dire des gens sans qualité particulière.
Je ne connaissais pas cette rubrique. Avant de passer la parole à Brice Couturier et Philippe Manière, juste pour que ce soit bien clair, ça veut dire que pour vous, Sylvain Bourmeau, il y a un problème d'offre, mais c'est un problème d'ordre qualitatif, pas quantitatif. Parce que quantitativement, on ne peut pas dire qu'on manque de candidats à la présidence de la République.
C'est un problème qualitatif, c'est un problème surtout d'absence de variété dans les profils de ceux qui recherchent les suffrages. On a assisté avec la professionnalisation de la classe politique à une forme de formatage. Les trajectoires se ressemblent beaucoup et d'où la difficulté à choisir véritablement et à renouveler profondément la vie politique.
Est-ce que, Brice Couturier, vous partagez ce diagnostic d'un formatage de la vie politique et de ceux qui briguent justement des mandats électifs? Et est-ce que, si vous partagez ce diagnostic, vous y voyez un mal particulièrement français?
Moi, je voudrais rappeler, parce que je suis plus vieux que vous tous, que Jacques Julliard avait publié un livre, beaucoup plus vieux. Jacques Julliard avait publié un livre dans les années 70 qui s'appelait Contre la politique professionnelle. Donc, on voit que le problème n'est pas nouveau, ni pas récent. Certains ont l'air de regretter en ce moment que la politique cesse d'être une carrière qu'on entame, mettons, en sortant de Sciences Po, en devenant assistant parlementaire, qu'on devienne député à 35 ans en succédant au grand homme qu'on avait aidé dans ses discours, et que si t'es pas ministre à 50 ans et sénateur à 65 ans, c'est que t'as raté ta vie. Ça suffit, quoi. Pourquoi, mon Dieu, la politique devrait-elle être se constituer comme une caste? Et pourquoi ne ferait-on pas appel, c'est ça qui a l'air, à mon avis, de gêner beaucoup de gens, à des gens qui ont une expérience hors du monde politique et qui vont apporter à la gestion du pays des compétences qu'ils ont acquises, par exemple dans le secteur privé, tiens, pourquoi pas? Ça changerait un petit peu la donne, la manière de travailler, ça donnerait peut-être un peu plus d'efficacité à l'action publique et ça permettrait peut-être de résoudre certains problèmes. Donc je suis pas d'accord avec ce que vous avez dit sur le fait que tout le monde veut être président. En fait, cette rubrique de France Inter et de France Info, elle a été créée par une revue que tu lis sûrement, Sylvain Bourmeau, qui s'appelle Prospect, qui est une revue du centre-gauche intellectuel britannique et qui, cette chronique existe depuis déjà 2 ans, si j'ai bonne mémoire, elle s'appelle, et tous les mois, c'est « Qu'est-ce que je ferais si j'étais le maître du monde ?» On pose cette question à plein d'intellectuels anglo-saxons et autres, et ils répondent « Voilà, quel est mon... » Donc effectivement, cette idée que « Qu'est-ce que vous feriez si vous étiez président ?» Bah, mon Dieu, ça ne veut pas dire que tout le monde aspire à la carrière politique, Dieu soit loué, mais ça veut dire qu'effectivement, il y a l'idée que peut-être que si on avait le pouvoir, on ferait certaines choses.
Est-ce que ça veut dire, en tout cas pour vous, Brice Couturier, que si tout le monde n'aspire pas à une carrière politique, que tous ceux qui aspirent à en faire une doivent être pris au sérieux, quel que soit leur parcours au préalable?
Bah non, mon Dieu, on a connu, même, je me souviens, là encore une fois, mon grand âge, sous De Gaulle, il y avait un type que Marcel Barbu, je sais pas, vous vous souvenez pas de ça, il
était candidat en 65.
Oui, et qui disait salut les copains à la télé, et ça avait beaucoup de succès. Bon, c'était un candidat fantaisiste, il y a toujours eu des candidats fantaisistes. Mais non, ce que je conteste, c'est qu'on s'oppose de manière systématique aux candidatures issues hors de la classe politique. Vous voyez très bien à qui je fais allusion, c'est évidemment Macron, qui a l'air effectivement de gêner beaucoup de gens à gauche et qui voudrait le marginaliser en le traitant comme un fantaisiste. C'est pas le cas.
Alors on va justement aller dans un instant, hein, je pense, sur le cas Macron qui est peut-être significatif de quelque chose qui est en train de changer dans la vie politique française. Je voudrais terminer ce premier tour de table avec vous, Philippe Manière.
Non mais oui, vous avez d'abord pointé un paradoxe qui est intéressant, c'est qu'on se pose la question de savoir si dans le fond il n'y a pas un désenchantement qui tient au fait que les politiques sont tous pareils, font plus rêver, ne donnent plus d'espoir, et tout de même c'est singulier qu'on se pose cette question au moment où il y a quand même plutôt abondance, c'est-à-dire qu'ils étaient 7 je crois à la primaire de la droite, 9 nous dit-on donc à la primaire de la gauche sous réserve de validation des candidatures, plus Macron, plus Marine Le Pen, plus Jean-Luc Mélenchon, plus les fantaisistes habituels que auquel faisait allusion Brice à l'instant.
Plus tous les autres qui ne sont pas fantaisistes.
Voilà,
et qui
mais
sont
regardez
issus
à gauche, comme à droite, vous avez quand même un spectre des possibles qui est très large. Enfin, je veux dire, entre Poisson et NKM à droite, puis à gauche, vous avez quand même aussi beaucoup de variétés parmi ces 9. Donc, on ne peut pas dire qu'on a quelque chose de tellement monocolore. Alors, où est le problème? Le problème, c'est que je pense qu'il y a une forme de frustration chez beaucoup de Français qui pensent qu'on a besoin en quelque sorte de renverser la table. Et ça nous renvoie quand même à un déterminisme français très puissant. Bon, on sait bien que gouverner, c'est à la fois changer le monde si on peut, et puis faire tourner le machin quand même. Faire tourner le machin, c'est pas tout à fait sans importance. Réunir dans le fond les meilleures conditions pour que chacun change son monde. C'est un peu les deux. Alors en France, on est très axé sur la première vision, c'est-à-dire le gouvernant doit changer le monde. C'est une vision très messianique de la politique, quasi démiurgique, hein, qui remonte à toutes sortes d'héritages français, soit le catholicisme, la monarchie évidemment, et tout ça retrempé au jacobinisme puis au marxisme. Bon, on pense souvent comme ça en France. Heureusement, de temps en temps, il y a des rémissions où finalement les Français se posent plus trop la question de l'opportunité de changer le monde. C'est généralement quand tout va bien sur le plan économique, avec une espèce de promotion sociale automatique. Rappelez-vous, dans les années 60 jusqu'à 68, bon, il y a eu une espèce de tranquillité. Les gens n'étaient pas très excités autour de l'idée de changer le monde. Ils étaient assez contents avec des gouvernants qui étaient modérément sexy, qui faisaient tourner le machin, mais ça tournait bien. Donc ça allait. Puis on a revu la même chose dans les années 80. Les gens ont oublié maintenant. Mais la deuxième partie des années 80, et même jusqu'au début des années 90, c'est pareil. Il n'y a pas tellement de fantaisie messianique. On est content parce que les gens font bien le boulot. Alors, en fait, la question qu'il faut se poser, je crois, c'est de qui a-t-on besoin? Parce que si on cherche des types qui nous amènent des idées nouvelles, fussent-elles folles, mais qui nous fassent rêver, bah, ça correspond à une certaine catégorie de candidats qui peuvent être effectivement recrutés dans toutes sortes de catégories et qui jouent certainement un rôle. Il en faut des gens comme ça.
C'est quand même pas la majorité de l'espèce aujourd'hui.
Non, mais justement, si on cherche. Non, c'est pas la majorité de l'espèce. Et il en faut, comme des poissons volants. En revanche, est-ce qu'il faut que ce soit la majorité de l'espèce? Je ne sais pas, parce qu'il ne faut pas oublier que la conquête du pouvoir, c'est mignon. Faire rêver les gens, c'est utile. Mais enfin, il faut quand même, encore une fois, je redis, faire tourner le machin. Et pour faire tourner le machin, ben, faut savoir trancher, faut savoir parler à l'administration et obtenir qu'elle fonctionne et qu'elle collabore avec les politiques publiques que vous voulez mettre en œuvre. Et tout ça, pardon de le dire, parce que je ne veux pas faire le rabat-joie, ça suppose des compétences, je ne parle pas de qualité, des compétences qu'on acquiert dans l'exercice du pouvoir à des niveaux inférieurs. Donc il n'y a pas de folie. Je ne dis pas qu'il faut que ce soit la seule manière de sélection des gens qui accèdent ensuite au pouvoir, mais ce n'est pas pathologique qu'on voit des gens faire des carrières qui peuvent sembler risibles. C'est facile de railler, et Brice le faisait très bien, type qui est conseiller, et puis qui ensuite devient assistant parlementaire, ou le contraire, puis qui devient ministricule, les choux farcis, puis un petit peu plus tard, un ministère régalien. C'est rigolo, c'est risible, c'est tarte, c'est toujours la même chose, c'est ennuyeux. Oui, mais à l'arrivée, ça fait quand même des gars qui savent parler à l'administration et qui, normalement, font tourner le bousin, ce qui, encore une fois, n'est pas complètement du second ordre.
Sylvain Bourmont, vous avez l'impression qu'aujourd'hui, on donne l'impression que n'importe qui serait en mesure d'exercer une fonction politique sans avoir forcément eu la formation, sans avoir l'expérience ou les compétences nécessaires?
Non, je crois pas, et je crois pas du tout que ce soit la réalité des caractéristiques sociales de ceux qui sont les candidats ou les élus. Je voudrais prendre le cas de la gauche et le cas de ces candidats à la primaire de gauche. Il y a une chose frappante, c'est que parmi ces 9 candidats, si je me trompe pas, il n'y a pas un seul énarque. À la primaire précédente, il y en avait la moitié. Il y avait Royal, il y avait Hollande et il y avait Fabius. Là, il n'y en a pas un seul. Lénard, qu'il est à côté. C'est Macron, on va y revenir. Laissons-le de côté. En revanche, il y a deux types de parcours, à mon avis, quand on regarde un petit peu qui sont ces gens. Il y a des gens qui, et ça c'est quand même très nouveau, qui n'ont fait que de la politique. Quand je dis qu'ils n'ont fait que de la politique, c'est-à-dire que non seulement ils n'ont fait que de la politique après leurs études, mais en fait, ils n'ont fait que de la politique pendant leurs études.
Et ils ont commencé à l'UNEF et ils ont terminé au Parti Socialiste.
En fait, ils n'ont pas vraiment fait d'études. Ils n'ont pas vraiment fait d'études. Je renvoie aux articles de Laurent Mauduit sur M. Cambadélis, le patron du Parti Socialiste, sur les circonstances dans lesquelles il a obtenu ses diplômes. Prenons le cas de Manuel Valls. Il a été un dirigeant étudiant dès la première année de ses études dans la même université où j'ai étudié.
Mais en même temps, ce sont des formes d'université de la politique, justement.
Benoît Hamon, syndicat étudiant. Benoît Hamon a la même trajectoire. Dirigeant, syndicaliste étudiant, président du MJS, même trajectoire. Donc on a des gens, et c'est pas tout à fait la même trajectoire que des gens qui font des études un peu compliquées, un peu sérieuses, qui passent l'ENA, et puis qui ensuite choisissent la carrière politique immédiatement. C'est le cas de François Hollande, c'est le cas de Ségolène Royal, c'est le cas d'un certain nombre, c'est le cas de Laurent Fabius, c'est le cas d'un certain nombre d'énarques qui n'ont jamais fait vraiment d'autres métiers que la politique, mais qui ont fait des études poussées longues. Là, il y a des gens qui n'ont pas fait d'études. Ils ont été étudiants, ils ont eu des cartes d'étudiants, mais ils faisaient de la politique pendant ce temps-là. C'est pas rien, ils ont appris des choses, ils ont un savoir-faire, mais ils n'ont pas fait d'études, donc ils n'ont pas la formation intellectuelle que ceux qui ont décidé, la même que ceux qui ont décidé de faire des études.
Alors, au moment, ça veut dire, Sylvain Bourmont, au moment où on rejette, où beaucoup de gens rejettent l'énarchie, en fait, vous dites quoi? On manque d'énarques aujourd'hui dans cette présidentielle.
Je constate, il faut regarder les choses. Et en face de ça, vous avez d'autres profils, vous avez des profils de gens qui ont exercé des métiers classiques. Arnaud Montebourg a été avocat, Vincent Peillon a été professeur de philosophie. Ils ont exercé ces métiers pendant une dizaine d'années, à peu près. Et au bout de 10 ans, ils se sont engagés dans la politique. Ils avaient toujours un intérêt pour la politique, mais ils s'y sont mis vraiment à en faire sérieusement à l'âge de entre 30 et 35 ans, on va dire. Et je pense que ce n'est pas tout à fait la même. Alors, ce sont des responsables politiques de longue date maintenant. Ils ont une expérience professionnelle de la politique très longue. Mais ils ont quand même eu un moment, et d'ailleurs, pour le cas de Vincent Peillon, il a choisi de retourner, à certains égards, dans une forme d'activité. Pareil pour Montebourg, même si c'est une période assez courte. Donc, je pense que c'est important de regarder de près, au fond, ces profils, ces trajectoires. Qu'est-ce que ça dit du Parti Socialiste? Qu'est-ce que ça dit de la manière dont le Parti Socialiste a vécu ces dernières années, de sa difficulté à former véritablement des nouvelles élites, des nouveaux cadres, du fait peut-être qu'il n'est pas attractif. Pourquoi Emmanuel Macron choisit de se présenter à côté? Vous disiez tout à l'heure en commençant, Hervé, il n'a pas besoin de la primaire. Il n'a pas besoin, enfin en même temps, c'est peut-être la primaire qui lui aurait permis éventuellement d'accéder au deuxième tour de l'élection présidentielle, parce que le résultat c'est qu'aucun candidat de gauche parviendra probablement à ce deuxième tour, à force de faire la primaire d'un côté, contourner la primaire de l'autre. Donc ça, on ne sait pas. J'aimerais qu'on revienne après, mais je ne veux pas monopoliser la parole, sur le cas Macron, parce qu'il me semble intéressant pour d'autres raisons, pour comprendre ce qui est en train de se passer dans la politique professionnelle dans notre pays.
Alors juste avant justement d'y revenir, on va encore un petit peu poursuivre sur ce que disent finalement cette sociologie aujourd'hui des candidats à la présidentielle par rapport à l'état des partis politiques, puisque ce soir on révèle un petit peu les coulisses de la préparation de l'émission. Brice Couturier, vous nous avez conseillé la lecture d'un article avant cette émission, un article de l'historien Rana Lévy qui l'a publié dans le Figaro il y a quelques jours de cela, et qui parlait d'un phénomène généralisé de délitement des partis politiques et qui dit notamment ceci: autrefois les partis avaient vocation à élaborer un corps idéologique, à promouvoir des intérêts en encadrant et en canalisant les passions partisanes. De nos jours, ils servent avant tout de machines électorales régies par des professionnels. Donc finalement, ce qui vaut pour la France vaut pour tout un tas d'autres pays.
Oui, regardez ce qui vient de se passer aux États-Unis. On vient d'élire dans la plus grande démocratie du monde un homme qui n'a jamais fait de politique de toute sa vie, un homme d'affaires. Donc ça montre bien qu'il y a une crise effectivement de ce milieu politique et qui un rejet, ce que dit Rana Lévy, qui est un rejet par les électorats eux-mêmes de cette caste politicienne qui effectivement apparaît aux électeurs comme une succession, une juxtaposition d'écuries présidentielles engagées derrière de professionnels de la communication et de la politique et du marketing politique et des sondages engagés au service d'un des candidats de ce parti.
Et non seulement d'ailleurs il n'a pas fait de politique, mais il s'entoure dans son administration d'une majorité de gens qui sont totalement
qui viennent tous du monde des affaires dans l'ensemble.
Et ce qui est plus fréquent
militaires et de militaires.
Ce qui est plus fréquent aux États-Unis depuis plus longtemps.
C'est vrai, mais ça montre bien qu'il y a là, qu'il y a derrière ça un rejet par les électeurs, par les gens de cette classe politique dans nos pays démocratiques. Et c'est assez inquiétant en effet, parce que comme le soulignaient d'autres intervenants avant moi, il y a besoin de savoir faire marcher la machine. Il y a besoin de savoir comment fonctionne une administration pour en prendre la direction. Sinon, elle ne vous obéit pas, bien entendu. Alors évidemment, dans le système américain, vous avez le spoil system qui permet effectivement de dégager tous les dirigeants de la bureaucratie qui ne vous obéissent pas et de les remplacer par des gens dont on est plus sûr. Mais enfin, c'est très inquiétant. Moi, je voudrais revenir sur cet article de Rana Levy parce que il m'intéresse beaucoup. C'est pas que je vous l'avais signalé à votre curiosité et intérêt. C'est parce que il montre que quelque chose qui résume en une phrase, nous sommes en train de passer d'une démocratie représentative à une démocratie d'opinion à caractère plébiscitaire. Et pour ce faire, il s'appuie effectivement sur le phénomène des primaires, par lequel, semble-t-il, l'électorat des partis se venge de la bureaucratie partisane qui tient ces partis. Et on voit bien, alors dans le cas américain, le divorce est encore plus phénoménal, entre la machine, comme on dit, du Parti républicain, totalement débordée par les électeurs et par les primaires, qui sont en train de véritablement révolutionner ce parti et en faire quelque chose de tout autre à tout point de vue, programmatique et institutionnel, de ce qu'il était jusqu'à présent. Et ça, c'est un phénomène très nouveau. Alors peut-être, après tout, c'est une forme de renouvellement qui sera bénéfique à long terme, qui sait. On ne sait pas encore, enfin dans le cas de Trump, ça paraît mal parti. Mais enfin, peut-être aussi que c'est une façon de renouveler la démocratie en allant chercher des gens qui, précisément, ne sont pas des politiciens professionnels.
Alors puisque vous avez évoqué le spoil system, Brice Couturier, donc cette technique qui consiste après une élection à ce que les dirigeants des administrations, enfin de l'administration centrale, démissionnent et soient finalement prêtent d'une certaine manière allégeance, en tout cas au nouveau pouvoir politique. Philippe Manière, est-ce que ça pourrait être une option à envisager aujourd'hui en France pour permettre justement aux politiques à retrouver un petit peu et d'autorité et d'autonomie politique par rapport à une administration qu'on pourrait considérer comme trop puissante? Je pense notamment à celle de Bercy, c'est toujours présenté comme ce fameux paquebot où les ministres finalement ne font que ce que leur dictent ceux qui sont là depuis des années, qui font partie de cette haute administration.
Il y a deux administrations qui prêtent le flanc à cette critique, Bercy et puis l'Éducation nationale. C'est deux grands paquebots qui effectivement s'appuient sur une compétence très considérable, sur un nombre énorme, pour que ni le ministre, ni, ce qui m'ennuie moi un petit peu plus, le Parlement, ne puisse véritablement peser sur les décisions qui sont prises. Alors, le spoil system...
Peserait-il davantage s'ils étaient peut-être plus compétents, mieux formés, je ne sais pas moi.
Ah bah oui, ça, moi je suis très sensible à ce que disait Sylvain tout à l'heure. C'est-à-dire que je pense qu'effectivement, les ministres qui ont une faible culture, enfin une faible éducation de départ, qui sont très homogènes de la manière qu'ils décrivaient et qui sont 100% politiques, ne sont pas les mieux placés. Mais c'est compliqué, parce que puisque j'évoquais l'éducation nationale, on observe rétrospectivement que parmi les meilleurs ministres de l'éducation nationale, il y a beaucoup de gens qui connaissaient rien au sujet. Par exemple, Monory, beaucoup de gens considèrent qu'il a été très bon. Il était, vous vous en souvenez, tout le monde daubait sur son état de garagiste.
Il n'y avait pas eu le bac, je crois que c'est ça.
Bac, ou je sais pas quoi. Peut-être
Il y a eu le mouvement étudiant de 1986 quand même avec Monory.
Non, mais les mouvements étudiants sont parfaitement légitimes. Mais quand on regarde ce qu'a fait Monory, c'était plutôt mieux que la moyenne. Regardez par exemple, j'oublie son nom à l'instant, quelqu'un qui venait de chez Renault, qui avait été ministre de l'éducation il y a 35 ans. Tout le monde a oublié son nom, moi aussi. Je l'avais sur le bout de la langue.
On va demander à notre ancien, Brice Couturier.
Fillon, dont on peut dire tout le bien ou le mal qu'on veut aujourd'hui, est considéré par beaucoup de gens comme ayant été un assez bon ministre. Or, il n'y connaissait rien. Symétriquement, prenez par exemple Darcos ou Ferry, qui étaient des grands spécialistes de la question. Ils se sont un peu enlisés dans leur connaissance trop intime de la machine et dans leur allégeance plus ou moins consciente à tel ou tel corps de cette espèce d'énorme machine. Donc, la compétence spécifique sur un domaine ne me semble pas, moi, particulièrement requise. En revanche, la capacité à maîtriser les rouages de l'État, oui, c'est vrai. Alors maintenant, je reviens à votre question sur le spoil system. Si vous voulez, en France, on a quelque chose d'alternatif, c'est-à-dire que l'administration reste en place, mais il y a des cabinets qui sont généralement assez nombreux, qui fonctionnent plus ou moins bien, ça dépend des cas, ça peut très bien marcher, un cabinet, pas toujours. Et on peut pas avoir les deux. Et donc aux États-Unis, si vous voulez, il y a très peu de cabinets. Pourquoi ? Parce que le président arrive. Je crois qu'il y a 3850, quelque chose comme ça, postes qui sont soumis à nomination quand le président est élu. Hein. Entre son élection et le 21 janvier, il y aura 3800 types qui auront été remerciés, et puis 3800 autres, ou hommes ou femmes, pardon, qui reviendront qui viendront à leur place. Donc vous avez immédiatement cette espèce de courroie de transmission assurée, parce que vous prenez des gens qui sont en gros d'accord avec votre orientation politique, et même au-delà avec les politiques publiques que vous entendez mettre en œuvre. Puis derrière, bah, c'est une administration mécanique qui suit, puisque les deux ou trois premiers étages de l'administration sont peuplés avec des gens qui sont proches de vos idées. On peut avoir l'un, on peut avoir l'autre, je ne crois pas qu'on puisse avoir les deux. Est-ce que ça changerait grand-chose en France d'avoir le spoil system ? J'ai un vrai doute, parce que quand on revient à notre interrogation originelle, moi ce que je crois, c'est que les gens ont tendance à se tourner vers des personnages un peu alternatifs, parce qu'ils ont un vrai doute sur la capacité de la classe politique classique à résoudre les problèmes, pour une raison qu'on peut tout à fait comprendre, c'est qu'objectivement, beaucoup de problèmes restent irrésolus depuis une vingtaine d'années. Donc, je ne sais pas si c'est lié à la sociologie des gens qui ont été en responsabilité depuis 20 ans, mais enfin, l'observation élémentaire conduit à penser qu'effectivement, ces gens-là, avec cette formation-là, n'ont pas été capables de résoudre nos problèmes. C'est quand même de ça, me semble-t-il, qu'il faut partir. Je ne crois pas qu'il y ait de détestation de la classe de ces gens-là, il y a une détestation de ce qu'ils ont fait, et donc, par contagion, on se dit qu'on a envie d'essayer autre chose. Quand je dis « on », c'est les Français en moyenne. C'est pas illégitime de se dire je vais renverser la table et je vais aller voir ailleurs si vous observez qu'il y a une grande homogénéité dans la classe politique et qu'elle n'a pas livré ce que vous espériez d'elle.
Alors il y en a un justement qui veut renverser la table, c'est Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, pour vous, il est comment dire, il est le symbole de quoi pour vous,
Sylvain Bourmou ? Quelle table ? C'est toute la question. Oui. Est-ce qu'il veut renverser la table de la politique ou est-ce qu'il veut renverser la table du pouvoir ? Et c'est pas
de la façon d'y accéder
déjà. Et c'est pas du tout pour moi la même chose. Je suis pas d'accord avec ce que disait Philippe Manière sur le spoil system. Je pense qu'on aurait besoin véritablement en France de donner à une équipe, un homme qui vient d'être élu et l'équipe autour de lui, des moyens beaucoup plus grands de mettre en œuvre les politiques sur lesquelles il a été élu. Je pense que l'un des problèmes de la crise du politique vient de cette difficulté à mettre en œuvre rapidement des politiques qui figuraient dans le programme pour lequel on a été élu. Et pourquoi il y a difficulté à mettre en œuvre ? Parce que précisément, ces équipes politiques, et j'ai eu de nombreux récits de ceux qui ont été ministres ou dans les cabinets ministériels ces dernières années, de leur difficulté à mettre en œuvre ces politiques face à ce qu'ils qualifiaient d'une forme de technostructure, de gens qui occupent des postes importants dans l'administration et qui, c'est la continuité de l'État en France, restent en poste, y compris des postes extraordinairement importants. Il a fallu presque 2 ans à la gauche élue en 2012 pour remplacer le directeur du Trésor, Ramon Fernandez, nommé par Nicolas Sarkozy. Quand on sait le rôle qu'a un directeur du Trésor en France dans la politique économique, quand on sait le rôle qu'il a dans, en particulier, le dialogue avec la zone euro.
Mais il fonctionnait très bien avec Moscovici, et ni Moscovici ni lui n'ont été mal à l'aise, parce que sur ces sujets-là, il y avait une grande continuité.
Parlez-en à Arnaud Montebourg, il vous expliquera ce qu'il en était. Pourquoi François Hollande n'a pas pu opter pour une attitude plus agressive à l'égard d'Angela Merkel, à l'égard de la politique européenne, dès qu'il a été élu ? Pourquoi il n'a pas fait ce qu'il a dit qu'il ferait ? C'est bien parce qu'il avait en face de lui une technostructure qui l'a empêché. Et cette technostructure, il l'avait à ses côtés, il l'avait avec Jean-Pierre Jouyet, il l'avait autour de lui, dans son cabinet. Donc, ce que je veux dire, c'est que cette technostructure, depuis des années, elle a pris un pouvoir considérable dans notre pays. Je fais le lien entre le lieu du pouvoir, qui est cette technostructure, et le fait que, précisément, les jeunes énarques aient déserté la politique. Pourquoi il n'y a pas d'énarques dans les candidats dont je parlais tout à l'heure à la primaire de la gauche ? Parce que les énarques ont compris que c'est pas là que se jouait le pouvoir politique. Et que s'ils ont envie de faire de la politique, il vaut mieux qu'ils transitent entre des postes importants dans l'administration française, dans les cabinets ministériels, auprès des dirigeants politiques, ou à la tête de grandes entreprises, et qu'ils fassent des allers-retours. Et donc, on a là, en fait, des segments de ce que Bourdieu aurait appelé la noblesse d'État, hein, des segments du pouvoir, véritablement, qui sont extraordinairement puissants, qui sont capables d'aller contre des alternances politiques, parce qu'au fond, ils résistent à la gauche, à la droite, ils font ce qu'ils ont dans la tête. Et c'est pas que Bercy, c'est pas que l'éducation nationale. Parler du corps des mines, des ponts, il y a des grands corps de l'État qui sont extraordinairement puissants. Et ce qui se passe avec Macron, je voudrais terminer là-dessus.
Est-ce que ça n'est pas justement le contre-exemple le plus parfait, Macron ?
Au contraire, Macron, c'est la tentative
par quelqu'un qui incarne ce type de pouvoir de la technostructure, d'aller chercher une légitimité politique démocratique dans une situation où la politique électorale démocratique classique est tellement affaiblie qu'il peut tenter ce court-circuit, qu'il peut tenter d'aller se faire adouber par le peuple sans avoir le soutien d'une machine partisane classique.
Bah, en même temps, on peut pas reprocher, Sylvain Bourmeau, à ces membres de la technostructure de ne pas avoir de légitimité démocratique et de s'opposer finalement à ce qu'est le résultat du suffrage populaire. Et quand il y a quelqu'un qui est issu de cette technostructure, qui vient d'ailleurs démissionner de l'Inspection Générale des Finances,
je ne reproche rien.
Il va chercher une forme de légitimité.
Je reproche rien. Je fais un constat et je dis que on a ce cas très particulier qui se présente à nous maintenant de Macron, qui est pour moi l'un des membres de cette technostructure, on peut le dire comme ça, et qui est tenté d'aller acquérir une légitimité politique directe en court-circuitant là où autrefois il serait passé par le Parti Socialiste. Ça, c'est une situation radicalement nouvelle. Et je voudrais juste terminer là-dessus. La première fois que j'ai compris ce qui était en train de se passer, probablement de se dessiner avec Macron, c'est au mois d'avril dernier, à la veille de son passage à la télévision, où il a commencé à prendre des distances. Il y avait dans le journal Le Temps, qui est un excellent journal, le journal suisse, pour comprendre la politique française. Parce que les journalistes du Temps peuvent plus facilement, semble-t-il, écrire à propos de la politique française que les journalistes français. Et Richard Verly, dans Le Temps, expliquait comment, en fait, un certain nombre de gens qui participent de cette technostructure, à commencer par Jean-Pierre Jouyet, mais il y en avait d'autres, des grands patrons, des gens qui conseillent les responsables économiques et politiques, ces gens avaient pris conscience que François Hollande ne pourrait pas être réélu. Ils n'avaient peut-être pas pris conscience qu'il ne pourrait même pas être candidat, mais il ne pourrait pas être réélu. Et donc, ils ont porté tous leurs espoirs, pour la gauche en tout cas, parce qu'en général, ce type de gens jouent à gauche et à droite. Ils ont porté tous leurs efforts pour la gauche sur Emmanuel Macron. Et c'est comme ça que s'est profilée cette candidature Macron. C'est avec le soutien de cette technostructure extraordinairement puissante. C'est cette technostructure qui est aujourd'hui en train d'essayer de remettre en question l'autonomie du politique. On est dans un mécanisme incroyable de dédifférenciation de la société française en ce moment. Et je trouve ça inquiétant du point de vue de l'autonomie de la politique par rapport à l'économie en particulier.
Donc Macron qui se présente comme le candidat hors système serait plutôt, si on vous entend bien Sylvain Bourmeau, le candidat du système, en tout cas de cette technostructure. Brice Couturier, vous en pensez quoi ?
Non, pas du tout, parce qu'en disant technostructure, Sylvain mélange deux choses, il le dit, à la fois la haute administration, parce qu'effectivement il est énarque, Macron, comme beaucoup d'autres. N'oubliez pas qu'aux primaires de droite, il y avait pas mal d'énarques, par contre. La technostructure, donc la haute administration et le business.
Hein, la finance. Mais c'est les mêmes, ils n'arrêtent pas de faire des allers-retours, ils font du pantouflage.
Moi je voudrais insister sur une chose, c'est que dans notre pays, la permanence de l'administration, le fait qu'on n'a pas de spoil system, comme le disait Sylvain Bourmeau à l'instant, que quand une alternance politique se produit, on conserve la même haute administration, qui parfois effectivement fait de la résistance. On la conserve pour une raison simple, c'est qu'on a l'expérience de la 4e République. Sous la 4e République, l'instabilité ministérielle était telle que la haute administration a servi de garant de la continuité de l'action de l'État, de la continuité des politiques publiques, bien sûr. Et on a ce souvenir d'une haute administration qui était à la fois non politique, garante de l'intérêt général, alors que, et qui était surtout permanente, qui maintenait des politiques qui permettaient d'avoir des effets à très long terme, parce qu'elle maintenait des caps qui pouvaient durer plusieurs années, alors que les cabinets ministériels changeaient constamment.
Oui, mais on n'est plus sur la 4e République aujourd'hui.
Voilà, ce à quoi je voulais en arriver, c'est qu'on n'a plus besoin de ce contre-feu, on n'a plus besoin de ce garde-fou administratif qui permettait effectivement à la France de continuer sur des programmes de long terme, puisqu'on a la stabilité politique qui nous manquait sous la 4e. Donc peut-être que dans cette mesure-là, on pourrait en effet, peut-être pas un spoil system, mais en tous les cas, avoir un peu plus de fermeté envers les politiques pourraient avoir un peu plus d'autorité sur leur propre administration, plutôt que d'en devenir l'otage. Un truc qu'on n'a pas dit suffisamment, c'est à quel point les ministres, une fois nommés, deviennent en réalité les représentants de la technostructure administrative dont ils sont théoriquement les patrons. Parce qu'en réalité, surtout, alors l'éducation nationale est un cas classique, un ministre qui arrive avec des projets de réforme très ambitieux, au bout de 15 jours, on lui fait comprendre que non, il n'est pas là pour changer quoi que ce soit, il est là pour servir
servir de représentant de la caste au service dont il vient prendre la direction devant le ministère des Finances et devant les autres ministères et devant éventuellement le président de la République et le Premier ministre. Mais oui, sur le cas Macron, moi je fais pas du tout la même analyse que vous. Moi je pense qu'effectivement, si Macron a le succès qu'il a, parce que n'oubliez pas que le candidat de la primaire de gauche va se retrouver coincé entre un Macron qui est aujourd'hui donné entre 13 et 18% des intentions de vote et un Mélenchon qui est à 13 et 14. Donc ça veut dire qu'en fait, n'oublions le candidat qui va sortir, enfin l'élu de la primaire de gauche sera totalement marginalisé.
Enfin, tout ça risque de se terminer à 12-12-12 ou à 13-13-13.
Oui, mais enfin, ça veut dire que le candidat de gauche, il sera donc derrière Fillon, Marine Le Pen, Macron et Mélenchon. Donc en fait, le candidat de gauche, il sera totalement marginalisé dans cette course. Donc Macron lui a compris que effectivement le Parti socialiste était en voie d'explosion, puisqu'effectivement la théorie de Valls des deux gauches irréconciliables, même s'il n'a pas vraiment dit ça, mais enfin en tous les cas, même s'il l'a pas dit, il avait raison. Les deux gauches ne sont pas irréconciliables. Vous avez une gauche de gouvernement qui est effectivement social-démocrate, et puis vous avez une gauche de témoignage, mettons, qui ne veut pas du pouvoir en réalité, parce qu'elle a le remords du pouvoir, comme disait Bergougnou, et qui ne veut pas gouverner en réalité. Donc ils ne peuvent pas coexister dans le même parti. Ça suffit quoi, que les frondeurs s'en aillent d'un côté, que ceux qui veulent gérer le reste de l'autre. Et puis Macron va récupérer ça, évidemment, parce que ce qui se joue dans ce moment politique aujourd'hui à gauche, c'est qui va prendre la direction de la gauche de gouvernement après les élections. Les élections, elles sont perdues. Mais qui va prendre la direction de la gauche de gouvernement? Qui va reformer un parti de gauche gouvernementale prêt à gouverner après ces élections? Macron est le mieux parti, bien entendu. Et Mélenchon pour les autres, ceux qui vont faire une gauche de témoignage.
Philippe Manière.
D'abord, j'ai retrouvé le nom de l'homme qui avait été un bon ministre de l'éducation, quoique n'y connaissant rien en arrivant. C'est Christian Belac. Et il avait été, alors je vous rassure, il sortait pas de nulle part, c'était un haut fonctionnaire, il avait fait je sais pas quoi, Polytechnique j'imagine, puis il avait été à EDF et chez Renault. Mais enfin, il a été un bon ministre, il connaissait rien en arrivant. Je pense que dans certains cas, c'est un avantage comparatif. Alors, sur le spoil system, encore une fois, moi j'avais pas dit que j'étais contre, j'ai dit que c'est peu compatible avec le système français des cabinets. On pourrait tout à fait imaginer qu'on bascule dans un spoil system. La difficulté, me semble-t-il, c'est de trouver des gens de qualité en nombre suffisant, parce qu'on a dit tout à l'heure à quel point ça avait été formidable d'avoir des hauts fonctionnaires de grande qualité. On a tous en tête, je sais pas quoi, les Paul Delouvrier, Marcel Boiteux, des gens admirables. Je ne suis pas certain qu'ils aient aujourd'hui beaucoup d'homologues. Je veux critiquer personne en particulier, mais même la génération suivante, vous aviez des gens comme Michel Pébrot qui étaient d'une très grande qualité à la fois intellectuelle et d'éthique. Je ne suis pas sûr qu'on ait aujourd'hui, encore une fois, l'équivalent. Alors donc ça pose quand même un problème dans la perspective du politique. Alors venons à Macron. Macron est un phénomène très intéressant, c'est pour ça qu'on en parle évidemment. À mon avis, ce qui le rend attrayant pour un certain nombre de gens, c'est qu'il combine cette altérité dont tout le monde a un peu envie, c'est le sujet de notre débat d'aujourd'hui, avec une forme d'honorabilité et de garantie de rassurance, comme on dit aujourd'hui. C'est-à-dire que on se dit, ah bah tiens, il est différent, il est pas comme les autres, ben avec lui je prends pas des risques dingues. Je veux dire, c'est pas à voter Macron, c'est pas à voter Mélenchon, c'est pas trop où ça irait, c'est même Montebourg à certains égards peut inquiéter, pas seulement le bourgeois, même des gens de gauche qui sont relativement désireux tout de même que les choses fonctionnent convenablement. Avec Macron, on se dit, bon, j'envoie un signal, tout le monde a envie d'envoyer un signal. De rejet, on a envie d'autre chose. Alors vous avez ceux qui vont chez Mélenchon, ceux qui vont chez Marine Le Pen, et puis vous avez ceux qui disent « Ah ben non, moi je vais manifester mon envie de différence ». À la limite, ça ressortit aussi au désir de manifester son indépendance d'esprit vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis des tiers, en disant « Je vais choisir quelque chose de différent ». Et voilà un produit en magasin qui est beau, très important. Il ne faut jamais oublier qu'on est dans l'ère de la télévision. C'est l'image qui fait presque tout. Nous, on lit les journaux, mais encore une fois, on est extrêmement minoritaire. Pour la plupart des gens, l'information, c'est principalement la télévision. Vous avez ce garçon qui est beau, qui sourit bien.
Vous avez vu la ressemblance extraordinaire avec Boris Vian.
Il y a des tas de références. Mais c'est le genre idéal, etc.
Il va falloir qu'il évite de crier quand même, parce que
non, mais ça, moi, j'ai pas d'opinion là-dessus. J'étais assez effrayé quand je l'ai vu crier, mais il semblerait que ça lui ait réussi. Donc après tout, j'en sais rien. Moi, c'est peut-être une technique de communication qui marchera. Bon, mais vous avez l'altérité, vous avez l'altérité et vous avez l'honorabilité. Et la rassurance. Donc, il y a un côté quadrature du cercle. Et alors, évidemment, ça attire énormément les gens qui ne sont pas très nombreux. C'est pour ça que moi, je ne pense pas qu'à l'arrivée, ça fera un score énorme. Bon, on est très loin de l'élection. Mille choses peuvent se passer. Mais il a cette caractéristique qui attire beaucoup de gens. C'est est-ce qu'il est à droite? Est-ce qu'il est à gauche? On n'en sait rien. Lui-même dit parfois qu'il est de gauche, parfois qu'il n'est pas seulement de gauche. Voyez mes pattes, voyez mes ailes. Et donc, alors, ça, c'est un délice en France. Les gens, beaucoup de gens, aiment beaucoup ça. Et ils récupèrent évidemment l'électorat frustré à droite de la défaite de Juppé, il récupère à gauche des gens qui sont effrayés par les candidats radicaux. Donc on voit bien comment sur le plan de la posture et de la tactique, c'est une candidature prometteuse. Maintenant, il y a quand même un petit sujet qu'on n'a pas encore abordé. D'ailleurs, lui-même dit très sincèrement qu'il ne l'a pas encore abordé lui-même, c'est qu'on ne sait pas ce qu'il va faire.
On ne sait pas ce qu'il va faire. Il nous annonce un programme en janvier. Jusque maintenant, on a eu des bribes, sur chaque fois un petit peu exotiques, mais pas trop, qui sont à mon avis pas complètement compatibles les unes avec les autres. En tout cas, on attend encore de savoir ce qu'il veut nous vendre. C'est quand même intéressant de voir quelqu'un à ce niveau de crédibilité et de reconnaissance dans l'opinion, alors qu'on ne sait pas exactement ce qu'il veut nous vendre.
La possibilité qu'il s'agisse d'une pure bulle médiatique, on ne peut pas aujourd'hui l'écarter.
Non, mais elle dure depuis longtemps.
Et c'est un petit peu finalement notre mantra depuis le début de ce club du vendredi, c'est qu'on ne peut rien écarter aujourd'hui comme hypothèse. Ce qui rend d'ailleurs cette campagne présidentielle à la fois passionnante et par moments quand même peut-être un petit peu inquiétante. Merci beaucoup en tout cas à tous les trois d'avoir participé à cette discussion. Philippe Manière, Brice Couturier, Sylvain Bourmeau, peut-être juste un mot de la suite dans les idées. Demain, ce sera qui?
Avec une historienne américaine de Cornell University, Camille Ropsis, qui a travaillé sur la famille et la République.
Ce sera à partir de 13h30. Merci Sylvain. Cette émission, vous pouvez la réécouter comme chaque jour sur notre site franceculture.fr à la page du Grain à Moudre. Vous pouvez aussi faire vos commentaires, vos réactions sur notre fil Twitter. Un grand merci à l'équipe du Grain, Céline Leclerc, Mélanie Chalandon, Fanny Richer, Cyril Baer, Isolte Sicard. Émission réalisée par Anne-Franquini-Pérez avec à la prise de son Alexandre Dangue. Lundi et pour toute la semaine prochaine, vous retrouverez Mélanie Chalandon. Lundi, ce sera pour une émission consacrée au SMIC, puisque c'est ce jour-là que devrait être décidée l'augmentation annuelle, a priori, du salaire minimum en France. Tout de suite, oui, je cherchais mes mots, et je cherchais leurs noms, Mathilde Serrel et Martin Kenéen pour Ping Pong. Bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir. Hervé. Bon, vous avez le temps, d'ici 2017, vous essayez de retenir.
Oui, il faudrait que je le note, en fait, sur une fiche, une fois pour toutes.
Voilà. Alors, ce soir, nous, on continue l'inventaire de cette France en 2017. On s'intéresse à la classe ouvrière, à la classe pavillonnaire et aux zones blanches.
Avec Éric Chauvier pour son livre, je dirais presque un roman, Les Nouvelles Métropoles du Désir chez Alia. Jean-Claude Poisson pour son documentaire La Bataille de Florange. Et Philippe Vasset qui vient nous parler d'écrire en position de faiblesse à l'occasion des 5 ans de la revue Feuilleton.
Et tout de suite, place à la classe tout court.